France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Après l'incroyable histoire de la chanteuse Oum Kalsoum la semaine dernière avec Mourad Boudjelal, une émission à retrouver en podcast, balado, diffusion bien sûr, on vous emmène dans deux ambiances de salon aujourd'hui avec aussi un événement autour de la poésie. Voici le sommaire.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Nous sommes cette semaine en partie au Salon du Livre de Genève que nous accompagnons depuis toujours. Joël Dicker est l'invité d'honneur de cette nouvelle édition et il est sur notre plateau installé par la RTS. On le rejoint dans un instant. Il sera aussi question du Printemps des Poètes qui commence ce week-end. Nous serons avec le Syrien Omar Youssef Souleyman et la franco-ivoirienne Véronique Tadjo qui publient tous les deux un nouveau recueil de poésie. Et puis nous vous proposerons une séquence culinaire avec des agriculteurs de l'outre-mer pour illustrer les livres de cuisine qui se vendent par milliers en librairie. Nous parlerons du miel et des achats de Mayotte, de la viande de Nouvelle-Calédonie et du rhum de Tahiti depuis le Salon de l'agriculture à Paris. Et on commence avec l'actualité francophone de la semaine. C'est bien sûr le Salon du Livre de Genève qui se tient tout le week-end. Bonjour Joël Dicker.
Bonjour Emmanuel, comment allez-vous ?
Ça va bien et vous ?
Ça va très bien, très heureux de vous parler.
Alors nous aussi, nous sommes avec vous depuis le Salon du Livre de Genève. Vous êtes l'invité d'honneur, je le disais. Vous êtes sur place grâce à nos moyens techniques de la RTS. Quelle est l'ambiance cette année ?
Et l'ambiance est excellente. Vous entendez sûrement le brouhaha autour et c'est un excellent brouhaha parce que ce sont des lecteurs qui foisonnent, qui chinent, qui rencontrent, qui parlent. Et c'est toujours une grande excitation, je trouve, d'avoir comme ça des lecteurs tous différents, tous amateurs de genres tellement différents et qui se retrouvent ensemble dans un même endroit. C'est la force de tous ces salons.
Alors vous avez un grand succès, hein, Joël Dicker, en Suisse et partout ailleurs. Comment se comporte un auteur sur un salon comme celui-ci ? Comment faites-vous ? Êtes-vous à votre aise ou êtes-vous contraint par les obligations et par les regards du public ?
Non, au contraire, je suis très heureux. On est tous là. Il y a une bienveillance et il y a un plaisir pour tout le monde d'être là, pour les lecteurs qui sont présents en nombre, qui sont patients aussi. Et moi, c'est que du bonheur. Vous voyez, je me dis toujours, est-ce que mon livre va plaire ? Est-ce que les gens seront là ? Ouais. J'ai rêvé, figurez-vous que j'ai rêvé hier, sachant que je venais ici, que personne n'était présent. Et c'était un rêve un peu angoissant. Et j'arrive là et je vois cette foule. Et donc, vous voyez, c'est pas du tout acquis. C'est pas du tout quelque chose qui m'embête. Au contraire, c'est un bonheur à chaque fois de connecter ici.
C'est vrai que vous dites que le Salon du Livre de Genève vous rappelle votre enfance. C'est un moment attendu pour vous parce que vous y alliez quand vous étiez gamin.
Moi, j'y allais enfant. Il y avait une course au trésor pour les enfants qui s'appelait la course de Magellan.
Oui.
Et je me souviens, enfant, avoir arpenté les stands avec mes copains, avec la classe. Et c'est un moment très important parce que c'est la première rencontre. Alors, on n'a pas encore des auteurs forcément à ce moment-là. On n'a pas des auteurs qu'on aime. On n'était pas forcément encore dans le livre. Mais il y a cette émulation, il y a ce plaisir du livre et ça se transmet déjà à ce moment-là. C'est un moment très important.
Oui, on entend les enfants derrière vous, d'ailleurs. La tradition des dédicaces n'est pas la même en fonction des pays, on nous le dit souvent. Beaucoup d'auteurs nous ont raconté que leurs signatures n'étaient pas les mêmes en fonction du lieu où ils étaient. Vous avez constaté ça, vous, avec votre expérience internationale ?
Ben, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a des pays dans lesquels je ne parle pas du tout la langue. Et je suis souvent face à des lecteurs qui ne parlent pas une langue que je comprends. Et donc, les signatures sont parfois des moments de discussion avec des clins d'œil, des signes de la main. On se courbe en avant, en arrière. On parle une autre langue qui n'est pas celle des mots. Et c'est toujours assez amusant.
Bon, merci Joël Dicker. Nous allons présenter nos libraires. On vous retrouve juste après pour parler de votre nouveau roman événement, évidemment Un animal sauvage, paru chez Rosie & Wolf. Et les libraires sont avec nous comme chaque semaine. Pour le Canada, on retrouve la pétillante et sémillante Josiane Letourneau, libraire à Montréal dans la librairie Pauline. Bonjour Josiane.
Il va falloir que je tienne à cette réputation. Bonjour Emmanuel.
Il va falloir. Bonjour Alexandre Dimitrievitch.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Genève, vous, dans la librairie Delphica, en plein Salon du Livre de Genève. En France, c'est Thomas Auxerre de la librairie Lamandier qui est avec nous. Bonjour Thomas.
Oui, bonjour Emmanuel.
Vous êtes installé à Puteaux.
À Puteaux.
Voilà, où tout va
plutôt bien.
Parfait, merci. Bonjour la Belgique. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Bruxelles dans la librairie du théâtre Le Public. Merci d'être avec nous. Voici une musique qui va faire plaisir à Joël Dicker. Écoutez. Joël Dicker est dans la librairie francophone cette semaine pour son nouveau roman depuis le Salon du Livre de Genève, la musique de Max Roach, grand batteur jazz d'origine américaine, décédé en 2007 à New York. Vous êtes un passionné de musique, Joël, notamment fan de Max Roach, je crois.
De Max Roach, et j'allais dire, est-ce que c'est lui quand j'ai entendu, parce qu'il a, une façon de jouer très particulière. Il avait lui-même une façon, il a été un des premiers dans l'installation de sa batterie qui a donné son jeu très particulier, et je l'ai vu en concert à Genève, je devais avoir 8 ou 9 ans, et ça a été une révélation.
Voilà, le petit cadeau pour vous aujourd'hui dans l'émission.
Merci, merci.
Nous vous suivons depuis votre premier roman, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, immense succès international, adapté en série. Chacun de vos romans est un événement en librairie. Vous devez beaucoup regretter Bernard de Fallois, à qui nous pensons à chaque fois que nous sommes avec vous, Joël. Qu'aurait-il dit de votre nouveau livre, d'après vous ?
Merci de l'évoquer. Je pense à lui tous les jours et je pense à lui encore plus quand, dans ces moments-là, un livre paraît et qu'il y a cette agitation. Je pense que ça l'amuserait. Je pense qu'il serait toujours en train de se dire ou de me dire quel sera le coup suivant. C'était un homme, un farceur. Il aimait faire des coups comme ça. Et je l'imagine plein de malice, dans le bon sens du mot, évidemment. Mmh. Et il me manque beaucoup, là.
Un animal sauvage, c'est le titre de votre 7e livre qui évoque une panthère apprivoisée qui un jour a retrouvé son instinct et d'une certaine façon sa liberté. Mais la liberté, cela a parfois un prix, Joël Dicker. La vie est en jeu quand on suit son instinct primaire et c'est valable aussi pour les humains. C'est ce que vous démontrez en partie.
Absolument. Dans un monde où on est souvent masqué par nos apparences, par nos envies, par nos fantasmes, on est dans un monde où on attend beaucoup de la validation des autres pour se valider nous. Et qu'est-ce qui se passe si on revient à ce que l'on est, à qui on est vraiment ? Et c'est l'histoire de ces quatre personnages, et un cinquième même, ces deux couples et un cinquième homme qui vont être confrontés à la réalité de ce qu'ils sont vraiment et de ce à quoi ils aspirent.
Voilà. L'histoire entremêlée, effectivement, de deux couples qui habitent une banlieue huppée de Genève. L'un a en apparence tout réussi. L'autre est plus modeste, une amitié va se nouer entre eux et ils vont être confrontés au braquage d'une bijouterie. Je ne vais pas trop raconter, hein, Joël, mais il faut quand même que je dise quelques éléments. Sans tout dévoiler, ils sont tous concernés directement parce que, comme toujours chez vous, il y a des zones d'ombre. C'est ça qui vous fascine, les zones d'ombre.
Absolument. Il y a ce qu'on voit immédiatement et ça commence par là, on ne révèle rien de trop grave, il y a un braquage. Un braquage se passe à Genève, il va durer 7 minutes et au moment où le braquage commence, on revient 20 jours. Il y a 20 chapitres qui sont les 20 jours précédant ce braquage dans lequel on rencontre ces quatre personnages, ces deux couples, et dont on comprend assez vite qu'ils ont tous un lien avec ce braquage. Je ne peux pas en dire plus.
Non. Mais en tout cas, vous situez l'histoire en Suisse. Alors, on est agréablement surpris. Alors, il y avait déjà la chambre 622 qui se déroulait dans les Alpes suisses. Mais contrairement au précédent qui se déroulait aux États-Unis, là, c'est un roman très suisse. Vous passez par le sud de la France, entre Menton et Toulon, en passant par Saint-Tropez. Mais le cœur de l'intrigue, je dirais, se déroule autour de Genève. Vous revenez à vos sources.
Oui, c'est à Genève. Je reviens aux sources, reviens chez moi et c'était important. J'ai envie de raconter cette ville maintenant que je me sens tout à fait à l'aise avec l'exercice de la fiction. Vous savez, c'était difficile pour moi dans mes premiers romans de raconter une fiction dans ma réalité. Mmh. Et je crois que l'épopée américaine de Marcus Goldman, de Harry Kéber, etc. m'a permis de mettre cette distance. Et cette distance, elle m'a permis de découvrir vraiment le plaisir que j'ai de la fiction. Il m'a fallu un peu de temps, mais j'y suis arrivé finalement avec ce roman-là pour écrire une vraie fiction dans ma réalité, dans ma Suisse, dans ma Genève. On avait déjà Genève dans la chambre 622, mais j'ai presque envie de dire que dans 622, Genève était un décor.
Oui.
Là, Genève est un personnage à part entière. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire.
C'est vrai.
Un personnage qu'on rencontre et dont on sent le pouls.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est un personnage, vous avez raison de dire ça, parce que le décor, finalement, Joël Dicker, c'est pas trop votre truc. Il y a peu de descriptions. On peut se faire son propre film. Je crois que c'est ça que vous voulez chercher chez le lecteur, que les personnages soient un peu neutres et qu'on puisse, comme ça, imaginer des choses.
Mais oui, parce que je suis écrivain, parce que j'aime lire. Et en tout cas, moi, quand je lis, les descriptions ne m'intéressent pas parce que j'ai pas envie qu'on me prenne cet espace de liberté. J'aime imaginer. J'aime imaginer les personnages comme je veux. Et j'ai toujours détesté que les auteurs m'expliquent comment sont ses cheveux, ses vêtements, ah oui, sa peau, ses habits, etc. J'ai toujours détesté ça.
Vous détestez Balzac,
envie, quand
alors,
j'écris,
du coup
justement.
Mais bah, c'est pas,
pas
votre
tout,
truc.
Évidemment. Mais j'aime pas les descriptions parce oui, que je trouve que ça m'empêche. Oui. Ça me prive de quelque chose. Et donc, quand j'écris, j'ai ce plaisir de dire au lecteur, jouons ensemble, et de lui dire vous faites une partie du travail, parce que si le livre existe, c'est parce que vous le lisez, et donc c'est à vous de créer, c'est à vous d'imaginer, c'est à vous de voir les décors, la maison, les personnages, de les imaginer tels que vous voulez qu'ils soient. On fait toujours ça, nous lecteurs, même quand on a une description très claire, on a tendance à la dépasser. Pourquoi ? Parce que nous lecteurs, quand on lit, on imagine, on crée, on construit quelque chose.
Et pourtant, c'est la difficulté de la littérature, Joël, faire vivre, faire vibrer des lieux et des personnages. Parfois, enfin souvent,
mais bien
par
sûr,
des descriptions.
Mais c'est la difficulté et c'est la beauté, c'est-à-dire que c'est un exercice qui est difficile. Il faut arriver, alors je décris peu, je n'écris pas rien,
ouais,
c'est justement
ouais,
ça. Il faut arriver à donner suffisamment d'éléments en main pour que le lecteur puisse s'approprier le livre. Et je crois, en tout cas, là, c'est le lecteur qui parle. Un livre qui me parle, un livre qui me plaît, c'est un livre que j'ai adopté et dans lequel j'ai l'impression d'avoir participé de façon active, dont j'ai le sentiment que les personnages, je les ai fréquentés vraiment, que je les connais vraiment. Il y a une part de moi lecteur dans chacun des livres que je lis et évidemment dans les livres que j'écris aussi.
Bien. Bon, on va donner la parole à nos libraires, Joël Dicker, et après, on va parler de Sophie, une jeune femme riche qui épouse un banquier un peu trouble. Sophie, c'est un peu la surprise de cette histoire, c'est une femme qui veut vibrer, justement. On va partir tout de suite au Canada avec Josiane Letourneau qui a lu votre dernier roman, Un animal sauvage. Josiane.
Oui, Joël Dicker, vous avez mis beaucoup de soin à construire ce théâtre des apparences et de l'envie dont la fragilité perceptible... Ben, je trouve que c'est un des éléments intéressants du roman. L'autre point fort est certainement ce moteur irrésistible qui est l'intrigue, dont vous jouez également très bien. Je dois par contre dire que je suis restée un peu sur ma faim au niveau du style. Efficace, certes, il nourrit l'intrigue, mais duquel j'espérais davantage. Tout de même, vous parliez de film tout à l'heure, ben c'est un livre dont le potentiel cinématographique semble absolument prometteur. Si quelqu'un du cinéma nous entend.
Ah ben ça, ça déjà Joël, il est déjà là-dessus à mon avis. Hein. Une adaptation, non? Prochainement?
Ben écoutez, c'est marrant parce qu'on me dit souvent « Ah, tes livres sont tellement cinématographiques ». Et oui, il se trouve qu'il y a encore, dans un moment où le cinéma appelle les livres et les adaptations, il n'y a eu qu'une seule adaptation de tous mes romans. Pourquoi ? Parce que tous les producteurs, il y en a beaucoup qui essayent de s'y mettre, se rendent compte que c'est pas si simple que ça. Donc oui, il y a des images, oui, il y a un imaginaire, mais il n'y a pas du tout l'imaginaire du cinéma, il y a l'imaginaire du lecteur. Et je vous le dis parce que je me rends compte, parce que j'ai des propositions tous les ans, plusieurs par livre, et que ça n'aboutit à rien parce que les gens se retrouvent coincés dans comment est-ce qu'on le rend à l'écran. Comment est-ce que ce qui est si évident dans l'image du lecteur peut être rendu de façon si claire et évidente à l'écran ? Et ben c'est compliqué. Enfin, en tout cas, ça semble être difficile pour les gens qui s'y attellent.
Alors, elle a besoin de subversion, Sophie. On le voit dans ce livre. Elle trouve cette subversion grâce à un homme qui sera son amant et qui lui propose des choses que son mari, Arpad, ne peut pas lui proposer. Qu'est-ce qu'elle cherche, Sophie, exactement, Joël Dicker, sans trop dévoiler l'intrigue ?
Sophie cherche à vivre une partie de sa vie. Elle a une vie cachée, elle a une existence cachée, elle a des besoins, elle a des pulsions dont je ne vous révèle rien ici, mais qui font que quand elle ne les assouvit pas, elle n'a l'impression de pas vivre pleinement. Elle qui a pourtant une vie sur le papier de réussite. Elle est une avocate, aimée de ses clients, aimée de ses amis. Elle est mariée à Arpad, un banquier beau et apprécié. Ils ont une magnifique maison. Ils ont deux enfants parfaits. Ils s'aiment, tout va bien, ils ne s'engueulent jamais. Tout est merveilleux. Ceux qui les observent sont en admiration, en adoration, en fascination, parce qu'ils se disent, en les regardant, le couple parfait existe, ça pourrait être peut-être nous un jour. Et puis on se rend compte que dans tout ça, Sophie, elle a des aspirations qui, quand elle ne les assouvit pas, elle n'est pas pleine, elle n'est pas entière, elle est comme une panthère en cage.
Voilà. Et c'est ce qui va favoriser le danger, en tout cas. Ils vont aller vers le danger. Tous ces personnages que l'on a dans cette histoire vont vers le danger. Joël Dicker est au Salon du Livre de Genève avec nous dans la librairie francophone. On va donner la parole à la Belgique qui a lu aussi votre roman, Joël, Déborah Damblon.
Ah, Emmanuel, vous savez, quand on me donne un roman passionnant, ben moi, je perds tout esprit critique. Je me roule en boule sous une couverture, je vous dis même pas la couleur du pyjama, et je redeviens une petite fille qui tourne les pages avec frénésie en oubliant complètement que le monde autour d'elle existe. Et puis, qu'est-ce que c'est bon, hein, ça, parfois. Alors, certes, on peut toujours chercher et trouver des critiques à faire. C'est pas un livre qui marquera les annales de la littérature, tout ça, tout ça.
C'est je pas le but, pas hein, le contraire, je crois.
Mais je m'en fous. Moi, j'ai passé un top bon moment.
Oui, je défends Joël Dicker, mais c'est vrai que c'est pas le but de rentrer dans les annales de la littérature. Je sais pas, Joël, ce que vous en pensez.
Rendez-vous dans 40 ans, Emmanuel.
Oui, c'est vrai, c'est
vous savez. Non, mais ce que je veux dire, c'est que qui peut écrire un livre en se disant « ce livre-là sera dans les annales de la littérature ». On est un bon écrivain quand on doute et quand on se dit au moment où le livre part à l'impression « mais attendez vraiment si ça ». Ce sont les lecteurs qui feront rentrer un livre ou un autre dans les annales. Alors, je ne peux pas maintenant vous promettre ce que je serai ou ce que je ne serai pas, mais si, madame, vous avez aimé le livre et si les lecteurs que je vois ici me disent oh, « j'ai passé un bon moment, j'ai oublié un peu les difficultés de la vie et le moment qu'on vit et j'ai pu m'évader un peu », alors si ça c'est déjà réussi, le pari est gagné et très largement.
C'est déjà pas mal, effectivement. La France, Thomas Auxerre, vous n'êtes pas du tout d'accord avec vos libraires
qui
ont pourtant aimé le livre. Alors
si, Emmanuel.
Il fait une tête, Thomas, je vous dis pas. Il est contrarié.
Non,
Thomas.
C'est pas vrai. Ça s'est très bien passé pour moi, Emmanuel aussi. Déjà, le livre ne fait que 400 pages.
Ouais.
Et bah déjà, à mon sens, c'est bien parce que bah, c'est 200 moins que les autres qui en faisaient 6 ans et j'ai trouvé ça plus efficace.
Alors ça, c'est grâce à moi, figurez-vous, parce c'est que vrai. Je dis tout le temps à Joël d'arrêter d'écrire des romans de 6 ans.
Eh ben, il a bien fait vous écouter.
Il peut confirmer.
C'est vrai. Emmanuel s'est plaint à main reprise, absolument.
C'est trop long à préparer.
Eh ben, il a bien fait de vous écouter. Parce que là, franchement, c'est une très bonne cuvée pour ce Dicker. Il y a une histoire qui démarre vite et bien, une intrigue et surtout une construction redoutable.
Ouais.
Et puis bah, moi, j'ai vraiment particulièrement aimé ce côté un petit peu compte à rebours avant le braquage que vous évoquez. C'est vraiment une réussite.
Voilà, Joël, la vie de nos libraires.
Merci.
C'est vrai que vous êtes un romancier
merci
horloger,
beaucoup.
Joël. Vous faites beaucoup de retours dans le passé. Vous déclinez votre histoire comme un conte à rebours, avec des dates, des heures en début de chapitre. C'est un roman comme ça sur la frustration, sur le fantasme. Et vous l'entretenez, cette frustration et ce fantasme, par ses horaires, par ses dates.
Oui, c'est important pour moi aussi de mettre le lecteur dans une sorte de moment clé, de moment clair. Vous savez, je pense qu'une des inspirations de ce livre, c'est Lord Jim. Joseph Conrad, quand il écrit ce livre, il raconte, c'est Marlowe qui raconte pendant une nuit ses aventures. Et on fait, c'était un feuilleton en plus à la base, hein, mais on lui fait la remarque quand le livre paraît. On lui dit, oui, mais attends, Conrad, c'est n'importe quoi, il peut pas avoir raconté tout ça en une nuit. Et Conrad dit, si, si, bien sûr, j'ai millimétré, j'ai chronométré.
Ouais.
J'aime ce rapport à la lecture et au temps, c'est qu'on peut pas chronométrer son temps de lecture et j'avais envie, en mettant ces allers-retours, en mettant ce chronométrage, en ayant immédiatement ce braquage qui dure 7 minutes, j'avais justement envie de mettre le lecteur dans un espace temporel clair.
Alors ils vont jouer avec la ligne rouge, vos personnages, la frontière avec ce qui est convenable. On est tous confrontés à cette ligne-là. C'est ça la moralité, Joël Dicker, éviter de franchir la ligne rouge.
Non, la moralité, c'est de se dire, et si ce qui était convenable ou si ce qui n'était pas convenable nous convient à nous, est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'on a le droit de pas être convenable ? Oui, au fond, on est dans un monde de convention. On est dans un monde où on est tellement inquiet de ce que les autres vont penser de nous qu'on n'ose pas se révéler. Et à des gens très proches, parfois à nos conjoints, à nos parents, à nos enfants, à nos amis de toujours, on n'ose pas raconter qui on est vraiment, comme si une partie de nous-mêmes, dont on aurait un peu honte, dont on se dit qu'elle n'est pas convenable, pourrait faire qu'on nous aime moins. Eh bien, si on se rendait compte que la vie est courte, qu'on n'a qu'une seule petite vie et qu'il faut assumer ce qu'on est, il faut assumer les parties moins convenables de nous et si elles nous conviennent, les autres nous aimeront tout autant.
Et assumer son animalité, bien sûr. Vous découvrirez cela dans le livre de Joël Dicker. Merci beaucoup, Joël.
Merci Emmanuel, merci à tous et à toutes.
Un animal sauvage est paru chez Rosie & Wolf. Bon salon à vous, Joël Dicker, à très bientôt.
Merci, à très vite, au revoir.
Au revoir. Le Salon du Livre de Genève se tient tout le week-end au Palexpo. Tout à l'heure, nous serons sur un autre salon avec des agriculteurs de l'Outre-mer. Mais dans quelques minutes, il sera question du Printemps des Poètes avec le Syrien Omar Youssef Suleiman et la Franco-Ivoirienne Véronique Tadjo. Le temps d'écouter le nouveau titre de Christine and the Queens. l'élégance de Christine and the Queens avec Aimer puis vivre.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Le printemps des poètes commence ce week-end et se termine le 25 mars, au moment où le printemps commence. Oui, je sais, ce n'est pas très logique, mais cela nous permet d'en finir avec l'hiver plus rapidement. Bonjour Véronique Tadjo.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Amar-Youssef Souleymane.
Bonjour Emmanuel.
Vous publiez chacun un recueil de poèmes. Véronique, vous êtes une autrice franco-ivoirienne. Vous avez reçu le Grand Prix d'Afrique Noire en 2005. Vous avez publié des romans et des livres de poésie. Dans L'Atérite, vous évoquez les violences subies par la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique. La poésie allège les horreurs ou au contraire elle les révèle avec plus d'intensité?
Je pense que elle donne une autre lumière, la poésie. Elle permet de passer par la porte de derrière et de réfléchir un petit peu plus profondément à ce qui nous touche, ce qui nous peine, ce qui nous fait du mal. Je pense que c'est un baume sur le cœur.
Un baume au cœur, un baume, voilà. Sur le cœur.
Oui.
Vous écrivez « La vie est faite de ronces et d'épines noires. Je l'aurais voulu plus mûre et moins amère. Mais tu sais, la limite des choses recule à chaque instant. »
Oui, c'est bien ça, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
On espère le meilleur, ouais. Mais parfois on est déçu par ce que la vie nous offre. Alors je pense qu'on doit être prêt à tout garder, ce qui est dur et ce qui est plus facile, mais c'est ça la vie, c'est comment on arrive à surmonter les épreuves.
Amar-Youssef Souleymane, vous êtes au programme, vous, du printemps des poètes, enfin l'hiver-printemps du poète. La violence, il en est aussi question dans votre recueil de nouvelles, Damas, je te salue. Votre propre histoire est empreinte de violence. Il y a un texte dans votre livre qui raconte votre parcours et surtout votre enfance au cœur du fondamentalisme en Syrie. Et puis un jour, vous déclarez à vos parents ne plus croire en Dieu. Et là, vous êtes rejeté. Vous êtes renié.
Oui, c'était mon premier exil. Oui, je dis toujours qu'en Syrie, on est né comme des exilés. Quand je dis on ou nous, je parle d'une génération qui a réussi à s'échapper de plusieurs tabous, et des tabous politiques, des tabous religieux, jusqu'à l'année 2011.
Oui.
Qui était une année particulière pour tous les Syriens. C'était l'année de la naissance de la révolution syrienne, qui tombe le mois de mars d'ailleurs, le 15 mars. Pour ça, le mois de mars est toujours particulier. Et une des raisons pour lesquelles en fait, j'ai écrit ce bouquin, ce livre qui sort au printemps des poètes et le mois de mars, c'est cet exil dans son sens le plus large. C'est-à-dire être exilé chez soi, être exilé géographiquement loin de chez soi, et mal compris, même dans son nouvel exil, parfois, je parle...
Mais vous l'avez choisi ça, Omar, parce que au lendemain des attentats du 11 septembre aux États-Unis, vous vous radicalisez, en prenant Ben Laden comme exemple. Et vous avez raconté cela hein, dans Le Petit Terroriste, un livre dont nous avions parlé ici même.
C'est vrai.
Et c'est la poésie, en fait, qui vous a ouvert les yeux, dites-vous.
C'est paradoxal, Emmanuel. Oui, parce que... Et la poésie, c'est la raison de l'exil. Et avec le temps, elle devient notre refuge, c'est-à-dire... La poésie ou l'écriture, c'est le pays et aussi c'est la raison pour laquelle on est devenu des exilés.
Et vous écrivez un poème d'Éluard a plus de valeur à mes yeux que les propos de Mahomet.
Évidemment. Et c'est toujours le cas. Vous savez, c'était tellement évident pour moi de changer la parole du prophète par la parole de poète. Parce qu'en fait, quand j'étais en Arabie Saoudite, mon père m'a acheté un ordinateur. Et c'est marrant de le dire, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des réseaux sociaux comme un terrain de manipulation pour les jeunes, etc. Moi, l'Internet, c'était le terrain qui m'a sauvé de l'extrémisme et de la radicalisation, car il m'a ouvert les yeux vers d'autres choses qui n'ont rien à voir avec l'intégrisme en Arabie Saoudite.
Véronique Tadjo, vous êtes née en France, vous, mais vous avez passé votre enfance en Côte d'Ivoire, et vous avez en vous la culture des griots. Dans certains de vos poèmes, vous vous nommez sorcière. Vos incantations visent-elles à changer la réalité future ?
Oui, je pense que ça vient peut-être de la tradition orale. C'est cette idée qu'il faut vraiment répéter les mêmes choses. Et puis aussi, c'est le fait que nous sommes souvent des victimes de l'amnésie. Et donc, voilà, c'est la force de la poésie, c'est ça. C'est répéter quelque part répéter les mêmes choses dans tous les temps.
Et influer sur la réalité ?
Oui,
à essayer. À force de répéter, on influe.
Peut-être, c'est une forme de transe, si,
oui,
si vous
ça.
Voulez.
Oui,
c'est,
oui.
Voilà, c'est pour amener au changement, oui, et briser l'indifférence d'abord.
Omar Youssef Souleymane, vous vous écrivez « On écrit avec du sang et des épines, sur les sables et les pierres de la solitude, face aux vagues de la perte, pour garder les larmes dans la poigne du vent, pour recréer le cri, on écrit. On écrit pour crier sa révolte aussi ?
Pour exister avant tout, et parce que l'écriture fait partie essentielle de notre engagement. Et je pense que l'écrivain ou l'écrivaine doivent être engagés, n'importe quel type d'engagement, même quand on écrit sur des vacances, sur peu importe. Je pense que l'engagement, c'est le sens ou le cœur de l'écriture pour moi. Mmh.
Damas vous manque aussi, vous le racontez ça. Alors, par la poésie, vous dites « Tu n'es pas loin, Damas, je suis en chemin et je t'attends ».
Vous savez, évidemment, Damas me manque, beaucoup de choses me manquent en Syrie, car je suis échappé de la Syrie le mois de mars, d'ailleurs.
Ouais, c'est, toujours
c'est toujours le mois de mars. Et je suis né le mois de mars, c'est vraiment particulier. Oui.
Oui, le 19 mars, je crois.
Hein. Oui, tout à fait, c'est poisson exilé, quoi.
Poisson exilé.
Et en fait, là, ça fait 11 ans que je ne suis pas rentré en Syrie, et je n'ai vu personne de ma famille depuis 2012, c'est-à-dire depuis... Des années, particulièrement ma mère. Damas représente ma mère, vous voyez. C'était aussi un retour vers la source, vers le berceau. On a l'impression qu'on s'est vraiment échappé de la guerre, on s'est échappé de ce pays opprimé, mais ce pays nous accompagne par la mémoire.
On va laisser la parole à nos libraires. Deux libraires ont lu le recueil de poèmes d'Omar Youssef Souleymane et deux autres ont lu Véronique Tadjo. On les retrouvera tout à l'heure. On commence avec les libraires d'Omar Youssef, si je peux dire cela, avec la Suisse et le Canada. La Suisse, Alexandre Dimitrievitch.
J'ai ressenti beaucoup de souffrance à la lecture de votre recueil. On touche très vite à ce qui alourdit votre cœur et celui de ceux qui vous accompagnent. Et on décèle dans cette douleur un refuge dans lequel vous puisez votre force. Et j'avoue qu'il y a quelque chose d'assez hypnotique.
Le Canada, Josiane Letourneau, qu'en pensez-vous ?
Ben moi, je trouvais ça touchant d'écouter Youssef. Et puis, votre poésie aussi, elle est touchante, mais elle n'est pas seulement ça, elle est porteuse. Elle est porteuse d'images à la fois puissantes et douces. Porteuse de moments d'oasis, moi, j'ai trouvé, de sensualité au cœur de la guerre. Je la trouve également, peut-être malheureusement, intemporelle, universelle. Puis, au-delà des ténèbres, j'ai trouvé qu'elle demeurait lumineuse en son centre, qu'elle était habitée par l'espérance et par ce qui peut subsister de bon, de beau dans l'humanité.
Et c'est un peu ce que fait aussi Véronique Tadjo. Véronique, il y a de l'espoir dans votre recueil de poèmes. Vous évoquez le passé glorieux d'une Afrique perdue. Et vous écrivez « Te souviens-tu de ce pays immense, baigné de silence ? Te souviens-tu de la savane herbeuse, du chant des balafons, de ces nuits magnifiques où nos corps jouaient de la même musique ?»
Je pense qu'on a beaucoup perdu dans l'image que l'on se fait de l'Afrique, parce qu'on se base simplement sur cette Afrique qui a beaucoup de conflits ou de contrastes. Et on s'est oublié nous-mêmes. Mmh. Et c'est ce dont je veux parler, c'est ça la force, c'est de pouvoir se souvenir de ce qu'on a été, de manière à aller beaucoup plus loin.
De ce qui était bien avant aussi.
Oui, c'est
du
important.
Positif, oui. On sort des ténèbres en pensant au positif.
C'est ça, exactement. On n'est pas simplement des champignons qui sont sortis comme ça.
Et avec la rage de l'écriture aussi.
Avec la rage de l'écriture, mais aussi avec, c'est ça, une tendresse quelque part et un amour et une découverte. Parce qu'en fait, moi, j'ai découvert le nord de la Côte d'Ivoire et c'est le recueil est en hommage aux Sénoufo qui habitent la Côte d'Ivoire dans le nord. Et ça a été pour moi une découverte de voir combien mon pays était divers et combien de richesses on avait justement dans cette diversité.
On va parler de la rage. Omar Youssef Souleymane a un poème qui s'appelle « Rage ». On va lire ce poème. Véronique Tadjo, vous êtes d'accord pour le lire ?
Absolument.
Sur de la musique syrienne choisie par David, notre réalisateur. On envoie la musique et je vous fais signe, Véronique, d'accord ?
J'ai construit une maison pour mes années migrantes, mais il lui manque une pierre, celle de ma mère, sur laquelle elle brisait les pailles pour allumer le feu du matin. J'ai traversé les capitales de l'Occident et j'ai soif de croiser un vendeur qui m'offre un léger sourire en échange avec le rien. J'ai tout ce qu'il faut pour refaire la mer et j'ai perdu le château de sable dans les doigts de l'enfant que j'étais. Veilleur de l'air, je ne suis pas une victime, j'ai juste une rage ravageuse.
Véronique Tadjo lit Omar Youssef Souleymane dans la librairie francophone pour célébrer le printemps des poètes. Tout ému, Omar Youssef, parce que c'est vrai que C'est une belle lecture hein, de Véronique
Tadjou. Oui, avec la belle voix de Véronique, merci.
Vous écrivez dans un autre poème, Omar, « La séparation ne me fait plus souffrir ». Et il est question des amours perdus dans vos poèmes, Véronique Tadjou. Vous semblez dire que les bonheurs éphémères qui aboutissent à une séparation nous font perdre l'innocence. Quel genre d'innocence ?
Ben, de croire que tout est possible. Voilà, c'est ça l'innocence. Mmh. C'est de penser qu'on peut tout faire, tout est possible, que ça ne se terminera jamais. Et donc, voilà, c'est un peu l'amour, le premier amour, l'amour qui n'aura pas de fin. Mmh. Et la vie nous montre que ce n'est pas ça. Ouais. Mais je ne sais pas, je trouve que chaque amour se construit sur un autre amour et donc ça donne quelque chose de plus grand.
Ah oui, à chaque fois, vous pensez ?
Oui, toujours.
Mmh. La construction de l'être, la construction de soi, même sur les ténèbres. Vous en parlez beaucoup dans vos poèmes, Véronique Tadjou. On va terminer avec la lecture de l'un de vos poèmes. Et cette fois, c'est Omar Youssef Souleymane qui va le lire avec moi sur de la musique ivoirienne. Écoutez.
La pluie tombait sur la terre gavée, l'herbe et les arbres, crachait l'eau boueuse. On marchait à contre-cœur, les pieds mouillés jusqu'aux chevilles, les habits trempés. Le ciel était si sale que tout semblait terne et malade. Les jours n'avaient plus d'heures, les heures avaient perdu leurs minutes, l'ennui tapisser l'atmosphère.
Et c'est ainsi que la terre bascula, que l'air perdit son parfum et que les oiseaux ne revinrent plus. Soudain, plus rien n'avait d'importance. Une tristesse infinie dessinait son sourire et elle se sentait seule. La cité s'était vidée de son sang. Partout où elle allait, elle croyait s'être perdue. Il lui semblait que la solitude l'avait envahie jusqu'au fond de ses entrailles et qu'elle portait en elle un peu de désespoir. La poésie de Véronique Tadjou, voilà, l'hommage aussi de Omar Youssef Souleymane. Vous êtes une grande écrivaine, grande poétesse, Véronique Tadjou, je le dis à ceux qui ne vous connaissent pas, parce qu'on est très honorés de vous avoir ici dans cette émission aujourd'hui. Le mot de la fin, c'est pour les libraires. Il y en a deux qui ont lu votre recueil de poèmes, Véronique. La Belgique et la Suisse, on commence par la Belgique, Déborah Damblon.
Mais la théorie, pour moi, c'est pas vraiment un livre qu'on lit, c'est un texte qu'on ressent, c'est un texte qui s'empare de nous. Parce que dans ce livre, tout n'est qu'émotion, que sensation. Et quand on sort de la lecture, on se sent mais comme après un rêve, un peu hébété, un peu brumeuse. Et on ne se souvient pas tout à fait de ce qu'on a vécu. Mais ça nous accompagne quand même longtemps, longtemps.
Mmh, c'est vrai, longtemps, longtemps. La Suisse, Alexandre Dimitrievitch, êtes-vous d'accord ?
Oui, moi j'ai lu et même relu ce recueil à plusieurs reprises. Je l'ai lu pour vous découvrir et je l'ai relu pour piocher et retenir certaines de vos formules. C'est simple, vous m'avez tenu captif tout au long de votre texte. Je retiens de ma lecture beaucoup de vigueur, de panache et le tout dans une langue accessible.
Voilà l'avis de nos libraires, Véronique.
Merci beaucoup.
Vous voulez réagir ?
Oui, oui, ça me touche énormément, oui. Parce que voilà, la poésie, l'écriture, c'est une bouteille à la mer. Donc c'est toujours bien d'entendre les réactions.
Votre prochain roman, c'est pour quand ?
Août.
C'est vrai ?
Oui.
Donc la rentrée prochaine ?
Absolument.
Bon, vous reviendrez ?
Avec plaisir.
Avec plaisir aussi. À très bientôt. Merci beaucoup Véronique Tadjou. L'Atérite suivi de Déclinaison du temps premier est paru aux éditions Point. Merci Omar Youssef Souleymane. Damas, je te salue est paru au Castor Astral. Vous avez aussi un livre Être français, un récit paru chez Flammarion. Et vos deux livres d'ailleurs sont en format poche à des prix raisonnables. Il faut le souligner, moins de 10€ pour la France et la Belgique, moins de 15$ au Québec et aux alentours de 13€ en Suisse. Voilà, c'est mon côté libraire. Merci à vous deux. Merci à vous. À suivre une séquence culinaire dans la librairie francophone avec des agriculteurs de l'outre-mer et on écoute en guise d'apéritif le chanteur créole David Walters.
Sous-titrage Société Radio-Canada. paix pour oublier. Tout doux mon crieur. Allez s'en virer. Plaire, moi c'est plaire.
Et ça,
pas nous à l'autre chance, dis-moi. Ah ouais, allez ou pardonnez-moi. Ah ouais, garde sans doux, dis-moi. Ah
ouais, et ça.
David Walters avec qui ça ?
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
Ici Radio-Canada première.
RTBF la première.
France Inter.
La chronique des libraires, première partie, un coup de gueule en France, Thomas Hausser.
Et oui Manuel, un coup de gueule pour le dernier roman de Simon Liberati chez Stock, s'appelle La Hyène du Capitole. Alors, je le dis tout de suite, c'est pas l'écriture soignée hein, qui m'a déplu, c'est plutôt le sujet du livre, qui est la vie d'une fratrie mondaine dans les années 70. Et d'ailleurs, c'est pas l'apparition de personnages pseudo-extravagants, hein, Truman Capote ou Andy Warhol par exemple, ni même le décor de cette Dolce Vita décadente qui m'ont fait changer d'avis. C'est juste que j'ai trouvé le roman un petit peu dans l'entre-soi bourgeois, plutôt mou et ennuyeux.
Moi, c'est dit.
Voilà.
Mais c'est l'univers de Simon Liberati en même
c'est
temps.
C'est vrai. Et c'est bien
il
écrit.
A réussi des très bons livres. Hein,
et c'est bien écrit.
Bon, voilà. Voilà qui est dit. Merci Thomas. Un coup de cœur en Belgique, Déborah Damblon.
Mais oui, un coup de cœur pour Passeur de Lumière. C'est le premier roman pour la jeunesse de Patricia Espel. Alors attention, attention, parce que les gens qui se lancent dans la fantasy, je les attends toujours gentiment au tournant, parce que c'est quand même pas donné à tout le monde de pouvoir créer un univers. Eh ben, Patricia Espel, elle y est sacrément arrivée avec un monde qui est écartelé entre quatre troncs. Entre les troncs circule un souffle, hein, le souffle du titre. Et au milieu de tout ça, il y a une prophétie, un guerrier arrogant, une jeune esclave, une rencontre, enfin, et bien sûr des rebondissements.
Bien.
C'est super.
Ça a l'air, hein?
C'est pas vraiment?
Pas du tout mon truc. Passeur de souffle, hein, c'est le titre.
C'est le mien.
De Patricia Espel à la Martinière Jeunesse, maison d'édition. Merci beaucoup, Déborah. Et voici une séquence culinaire avec des agriculteurs de l'outre-mer pour illustrer les nombreux livres de cuisine qui sont justement en librairie. Avec certains qui sont consacrés à la cuisine créole ou aux plats ultramarins, nous avons choisi de donner la parole à des producteurs sans qui les recettes ne pourraient se faire sans leurs produits, bien sûr. Direction le salon de l'agriculture dans une ambiance surchauffée par Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et Tahiti. On est sur le stand de Mayotte, donc ici avec du miel de Mayotte, des hachards aussi qui sont juste derrière. Qu'est-ce qu'il a comme particularité ce miel de Mayotte ?
Son goût unique, produit en quantité qui est très faible par les abeilles de Mayotte, une espèce endémique. L'abeille noire africaine, mais de petite taille, très petite taille. Ensuite, il est multifloral, du coup, ce qui fait une variation de couleurs aussi. En fonction de ce que les abeilles vont butiner, on va avoir des couleurs différentes. Mais il est vraiment unique, après il est rare. Donc c'est surtout ça sa particularité. On l'a présenté pour la première fois au concours, c'était notre troisième année de vente. Donc c'est notre deuxième année au salon d'agriculture. On l'a présenté pour la première fois au concours et on a la médaille d'argent.
Ah oui, bravo, félicitations.
Et c'est, cette médaille d'argent, en fait, il y a de l'or, la médaille d'or qui est cachée. Puisqu'on était trois à prétendre à la médaille d'or, Le jury étant indécis, ils nous ont décerné à tous les trois la médaille d'argent.
Donc, vous êtes un peu médaille d'or.
On est un peu médaille d'or, donc voilà quoi.
On peut le goûter du coup.
Je vais vous faire goûter, ça plaît.
Merci. Ouais, il est très liquide hein, d'ailleurs. Très clair et très liquide.
On est dans 19,5 pour ce qui est taux d'humidité.
Il est soyeux. Il a un goût très floral.
Très floral, oui.
Les abeilles vont dans quel coin de Mayotte pour butiner, pour faire ce miel?
C'est dans toute l'île. À Mayotte, il y a eu des gens qui ont fait une tentative pour mettre en ruche les abeilles sauvages, parce que la plupart sont sauvages au jour d'aujourd'hui. Ceux qui ont tenté, qui ont fait les premières tentatives, ont tous abandonné parce que c'est pas une abeille qui est facile à domestiquer. C'est compliqué parce que ça refuse les ruches conventionnelles. Il est encore complètement méconnu, cette abeille, en fait. Il n'y a jamais eu vraiment de recherche sur l'abeille de Mayotte. Oui. Du manière générale, on est dans 1,5 kg et 2,5 kg du manière générale. Hein? Tandis qu'ailleurs, ils sont sur des 20 kg, voire 40 kg. Donc l'écart, il est énorme. Mais cette abeille, on l'aime comme ça. Elle est géniale. Elle nous produit du très bon miel, à goût unique.
C'est vrai, je confirme. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Écoutez, félicitations pour la médaille d'argent, qui est en fait une médaille d'or.
Une médaille d'or,
car vous êtes trois à avoir la médaille d'argent.
Exactement. Et j'aurais dû me donner...
Bah oui.
Les trois médailles d'or, mais
oui, enfin. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Hein. Merci.
À bientôt, merci.
À bientôt.
Alors ici à Mayotte, il y a le miel, mais il y a aussi les hachards. Hachards de légumes, c'est assez commun. À La Réunion aussi, il y a des hachards. Dans la région, les hachards de légumes sont à peu près faits de la même manière, mais quelle est la particularité à Mayotte?
Alors, nous ne faisons pas de hachard avec des légumes, c'est vraiment avec des, par exemple, de la mangue, du citron, du bilimbi. Bilimbi, c'est comme un petit cornichon, mais qui pousse sur un arbre en grappe et qu'on utilise beaucoup pour aussi cuisiner. Il accompagne aussi notre quotidien dans les plats déjà cuisinés sous forme d'hachard.
C'est sucré ou c'est salé?
C'est piquant.
Ça va alors, si c'est piquant, c'est pour moi. Oui, c'est piquant.
Oui, c'est piquant.
Ça va.
On mange très piquant à Mayotte.
Oui, c'est vrai. C'est un peu acidulé, on dirait un peu un citron doux presque.
Voilà. Et souvent, on le remplace quand on n'a pas de citron à la maison. On prend le bilimbi, on le remplace le citron par le bilimbi.
Bien, merci beaucoup.
Avec plaisir.
On va aller sur le stand de la Nouvelle-Calédonie avec une viande exceptionnelle. Vous connaissez la viande de la Nouvelle-Calédonie?
Non.
Écoutez, c'est méconnu, il paraît que c'est incroyable. On va aller voir.
C'est quoi comme viande?
C'est du bœuf.
C'est parti.
À tout à l'heure, peut-être. Merci. Alors voilà, on a quitté le stand de l'île Mayotte pour arriver sur le stand de la Nouvelle-Calédonie. Il paraît qu'il y a une viande exceptionnelle en Nouvelle-Calédonie. C'est méconnu, on l'utilise dans de nombreux plats. Et c'est vrai que dans les livres de cuisine, on parle souvent de la qualité de la viande. Et vous, vous avez la solution.
Ouais, moi j'ai la solution et j'ai le problème en même temps. Donc c'est une viande qui est en un élevage, on va dire, extensif. Donc c'est 2 têtes à l'hectare, on nourrit qu'à l'herbe. Vu que la Calédonie est toujours arrosée des alizés, entre guillemets, c'est un petit vent, donc on a beaucoup d'air salin qui se propage partout, donc on a une qualité d'herbe et exceptionnelle, donc ça nous donne une viande exceptionnelle.
Alors quel plat vous conseillez avec la viande de Nouvelle-Calédonie, si tant est qu'on en trouve, parce que ça va être très compliqué à trouver?
Moi je conseillerais un cœur de rhum steak simplement en bleu, là, avec une bonne garniture jardinière, une bonne jarnière de légumes, vraiment voilà, sel, poivre, tout simplement. À toute simplicité, on ne se complique pas la vie.
C'est très français ça.
Oh, oui, mais la viande est très locale aussi, donc très calédonienne. C'est pour ça, c'est la viande qui va faire la jardinière, c'est pas le contraire.
C'est ça. Allez, on vous souhaite toute la chance possible,
C'est
le courage, et j'espère qu'un jour on mangera de la viande de Nouvelle-Calédonie partout dans le monde francophone.
Ça, c'est une bonne chose, et pour moi, c'est vraiment important. En vous remerciant.
Merci à vous. On peut faire de la viande avec du rhum. Il y a des recettes à base de rhum.
Oui, on peut.
Et on va aller sur le stand de Tahiti qui a eu une médaille justement.
Ok, mais ça c'est une bonne chose parce que moi le rhum, j'en bois. Bien sûr, avec modération, mais j'adore.
Allez, merci beaucoup.
Bonne journée, allez. Merci.
Au revoir, merci. Maori, Maori, Maori. arrivé sur le stand de Tahiti avec un rhum qui a eu une médaille d'or cette année. On vient de la Nouvelle-Calédonie avec une viande exceptionnelle. Décidément, les produits de l'outre-mer sont valorisés.
Exactement, au concours général agricole, donc on a énormément de chance puisque Mano existe depuis 2014 et on a la fierté de pouvoir avoir la médaille d'or sur notre rhum blanc qui est complètement l'ADN de la maison. Ce rhum a démarré donc un projet complètement dingue puisqu'on a replanté des variétés endémiques de Polynésie, on a retrouvé 38 variétés. Aujourd'hui, Manao est le résultat de 5 variétés de canne. Je vais militer pour l'IGP polynésienne puisqu'aujourd'hui il y a 4 distilleries en Polynésie et on a eu énormément de médailles puisque Manao a eu des médailles mais on n'est pas les seuls à en avoir eu. Nos confrères en ont eu également, donc ce qui garantit le fait qu'on fait des produits exceptionnels en Polynésie, c'est une évidence.
Alors Guillaume Beauté, vous allez nous faire goûter ?
Bien évidemment. La médaille d'or de cette année, qui est le Manao blanc à 50 degrés.
À 50,
comme je vous disais au démarrage, réintroduit 5 variétés de canne. La canne roseau, la canne rouge zébré jaune, la verte, la noire et la canne marron. Chaque canne sont pressées séparément, fermentées séparément, distillées séparément. Et de là, on va pouvoir obtenir chaque goût de chaque variété de canne. Vous buvez ça, il y a une émotion. C'est vibrationnel. Quand on goûte ça, on est à l'apogée de ce que l'on sait faire de meilleur. C'est gourmand. Et encore une fois, très accessible. Il y a un côté huileux, gras, charnu.
C'est exactement ce que j'allais dire, parce que je viens de goûter. Il y a un côté huileux dès le début. Et toujours cette attaque, qui n'est pas du tout brutale. Il y a une douceur, un velouté.
Velouté, exactement. Gourmand, voilà, c'est très bon.
C'est un passionné. Merci beaucoup. Félicitations pour cette médaille d'or. Manao, donc le rhum de Tahiti, qui est connu hein, d'ailleurs depuis quelques temps. Qui a eu du mal à démarrer d'ailleurs, et puis vous avez perfectionné le process. Et aujourd'hui, effectivement, je confirme, c'est un rhum magnifique. Merci beaucoup, félicitations
et
à vous.
Et en fait, nos 10 ans cette année, puisque le projet a démarré en 2014, nous sommes en 2024. Et donc, pour clôturer notre 10e anniversaire, une médaille d'or sur le blanc et d'argent pour l'Anguillera. Fantastique.
Parfait.
Merci à vous.
Vive Tahiti, à bientôt.
À bientôt, au plaisir.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et du côté des livres de cuisine, à noter les recettes iconiques des îles de Suzy Palatin aux éditions Hachette, le simplissime sur les recettes créoles les plus faciles de Jean-François Mallet ou encore l'essentiel de la cuisine guyanaise de Gilles Nourot aux éditions Orphie. On termine avec la seconde partie de la chronique des libraires et un coup de cœur, tiens, en Suisse, Alexandre Dimitrievitch, mais pas dans le rayon cuisine.
Voilà, je vous emmène en Mauritanie à la découverte des yeux bleus du désert, un premier roman très prometteur de Christine Bergougnou dans un style à chemin entre le conte initiatique et la chronique de voyage. C'est une histoire tout à fait incroyable, inspirée de faits réels qui nous raconte le destin d'une fratrie de 4 enfants nés aveugles qui va se retrouver séparée suite à la disparition de leurs parents. Et c'est bien de cette tragédie dont il est question, car c'est cette séparation qui va les obliger à arpenter le pays d'est en ouest, comme poussés par le vent du désert, pour trouver un sens à leur vie. C'est un texte incroyablement beau, où poésie et mysticisme s'entremêlent, que je recommande chaudement à quiconque a eu la chance un jour de découvrir le désert.
Bien, les yeux bleus du désert, aux éditions Elisade. Merci Alexandre. Un coup de gueule au Canada, Josiane Letourneau. Pour conclure.
Oui, c'est moi encore une fois qui va vous ramener à des considérations matérielles, Emmanuel. Vous savez qu'un livre abîmé en librairie est pour ainsi dire invendable.
Oui.
Ben, il y a des comportements que j'ai remarqués malheureusement qui arrivent trop souvent, des livres qui sont abîmés par, vous savez, ces gens qui feuillettent d'une main, l'autre étant greffé sur un portable ou mieux sur un gobelet de café quand c'est pas un cornet de crème glacée. Oui, je suis prévoyante, je me prépare à la belle saison. Bref, je suis consciente que ces comportements-là sont inconscients, involontaires, mais un livre abîmé plus un livre abîmé plus un livre... Bref, c'est pas seulement conséquent pour notre librairie, je suis certaine que c'est conséquent économiquement pour tous les libraires.
Voilà, faites attention quand vous regardez les livres dans les librairies. Si vous ne l'achetez pas, effectivement, il faut être respectueux. Thomas, vous êtes d'accord? Vous avez
ce
problème aussi.
Ah oui, comme Josiane, pareil.
Bon. À noter par ailleurs que vous pouvez contribuer au prix du livre Inter en proposant votre candidature afin de participer au jury par courriel ou par courrier à France Inter d'ici le 11 mars. C'est la 50e édition cette année, présidée par Isabelle Huppert. On a tout dit. Merci à vous.
C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Instagram et X pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Le Prince, avec Benjamin Wagon à la technique, Thierry Dupin à la prog musicale, à la rédaction Jean-Philippe Verret et Christophe Magère de France Inter avec les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. La semaine prochaine, le grand voyage francophone continue avec des surprises. Bonne semaine, bon week-end à vous. On termine cette rediffusion avec le bonus créole. Dans quelques minutes, il sera 2h en métropole, 4h à Mayotte. Le bonus créole avec Véronique Tadjo qui a choisi d'évoquer Haïti. Où c'est le désastre en ce moment, Véronique ?
Oui, vraiment. Je pense très 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 fort à Haïti parce que c'est un pays merveilleux, un grand pays. J'y suis allée, j'ai beaucoup aimé et il y a des grands auteurs, il y a des grands peintres, il y a des grands musiciens. Alors ce qu'ils vivent en ce moment est absolument terrible, c'est un véritable cauchemar que des bandits s'emparent d'un pays.
C'est une guerre de gang. Hein.
C'est une guerre de gang et vraiment c'est ahurissant, irréel.
4000 détenus se sont évadés des prisons.
Exactement.
L'aéroport a été pris en main par les gangs. Enfin, c'est une catastrophe.
Oui, on parle souvent de coups d'État faits par des militaires. Là, on se retrouve avec une situation aberrante. Je veux dire, des gangsters, des criminels qui vont carrément faire un coup d'État et saisir le pays. Non, vraiment, c'est un grand cauchemar. Et vraiment, on est avec eux, on est très solidaires.
Et il faut lire la poésie haïtienne.
Il faut lire la poésie
haïtienne. Vous qui écrivez des poèmes.
Oui, vraiment. Et je pense aussi à Rodney Saint-Éloi, qui est un poète, qui est un romancier, mais qui est aussi un éditeur et qui met en avant toute la poésie haïtienne. Et puis aussi qui a une ouverture sur le monde. C'est surtout ça qui est important. Parce que je pense qu'on peut beaucoup apprendre les uns des autres. On peut évoluer ensemble. Et puis voilà, il faut trouver une forme de solidarité.
L'ouverture sur le monde de Rodney Saint-Éloi avec sa maison Mémoire d'Encrier notamment.
Absolument,
que
oui.
Que l'on connaît bien dans cette émission.
Mémoire d'Encrier qui a un catalogue fantastique.
Formidable.
Qui vient de tout le monde, du monde entier.
On pense très fort aux Haïtiens, effectivement, qui vivent encore un drame dans leur pays. Pays meurtri, pays sacrifié. Voilà, on pense à eux. Merci Véronique Tadjo. On va écouter de la musique haïtienne pour conclure. Merci à vous.
Haïtiens rassemblés, patine par bébé. Haïtien rassemblé, nous tout concerné. Pour ça pas bon, pour ça pas bien passé. C'est nous tout caprié. On est vaillant d'Haïti, pas dit pas mêlé. D'Haïti nous tout concerné. Près de 200 ans nous chantait liberté. Mais qui côté nous y est. Bien des 100 ans pays n'a la touché. Sous ce chant la chanté. Les bons dieux et les poids.